RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel. Et tout de suite le journal. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les 25 novembre, ce lundi marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors que près d'un tiers d'entre elles subissent encore des violences sexuelles ou physiques de la part d'un partenaire intime. Reportage à venir en Haïti.
Surprise générale en Roumanie, un candidat pro-russe est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle.
Calin Georgescu, crédité de quelques pourcents tout au plus dans les sondages, est pourtant arrivé devant l'actuel premier ministre pro-européen Marcel Ciolacu. Au total, l'extrême droite récolte près d'un tiers des suffrages. Dans ce journal également, la communauté internationale réunie pour mettre fin à l'usage excessif du plastique. Et puis un peu de douceur en fin d'édition avec le dernier album du Britannique Michael Kiwanuka.
Ce lundi 25 novembre marque donc la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et on est encore loin du compte. Un tiers des femmes subiront des violences sexistes dans leur vie.
C'est ce qu'indique l'ONG CARE. Alors quand on dit violences sexistes, de quoi parle-t-on ? Il y a les féminicides, les viols, mais aussi les violences conjugales, l'exploitation sexuelle, les violences économiques. Et souvent, en cas de conflit, eh bien les femmes et les enfants sont en première ligne. C'est le cas en Haïti, où les recrutements d'enfants dans les gangs ont augmenté de 70% en un an, nous apprend l'UNICEF, et où la situation des femmes s'est encore dégradée, sans qu'aucune action efficace ne soit prise malgré les alertes lancées par les organisations de défense des droits humains. À Port-au-Prince, Peterson Luxama.
En Haïti, au cœur des conflits des gangs armés, les femmes paient un lourd tribut. Délise Firmante est l'une des nombreuses femmes ayant fui son quartier pour échapper à la violence des gangs.
Les bandits nous ont chassés de la zone, nous avons dû partir, nous dormons chez des gens. Nous vivons une situation extrêmement difficile, nous ne savons pas quoi faire.
La situation alarmante de ces femmes pousse des organisations de défense des droits humains à réagir. Émilie Marcelin, responsable de l'axe genre au sein du collectif Défenseur Plus, dresse un tableau sombre de leur réalité.
Avec le pouvoir et l'influence croissant des gangs dans le pays, la vie des femmes devient de plus en plus compliquée. Leurs activités sont paralysées et les gangs les poussent à fuir dans les rues. Elles subissent des viols collectifs de la part des groupes armés, tandis que les femmes cherchant refuge dans des camps de déplacés. C'est mal organisé, ils sont également confrontés à des agressions et du harcèlement sexuel.
Cette triste réalité préoccupe également des organisations féministes comme Neges Maron, qui a accompagné cette année des centaines de femmes victimes de violences, selon Abigail Dérolien, l'une des responsables.
Au cours de l'année 2024, Neges Maron a recensé et pris en charge environ 700 cas de violences faites aux femmes, dont 230 cas de viol à corps et agressif.
Neges Maron, comme de nombreuses autres associations, réclame des mesures urgentes face à cette situation. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Écoles et universités fermées aujourd'hui à Beyrouth. Les établissements scolaires gardent porte close après un week-end d'affrontements particulièrement intense entre le Hezbollah et Israël. L'État hébreu a affirmé hier avoir visé 12 sites de commandement du groupe armé qui a en retour tiré plus de 250 roquettes. Les dirigeants du G7 devraient évoquer la situation aujourd'hui au cours d'un sommet près de Rome. Ils devraient aussi aborder la guerre en Ukraine. Après l'envoi de dizaines de drones par la Russie ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé hier soir ses partenaires occidentaux à l'aider dans la construction d'un système de défense antiaérienne.
Et la guerre en Ukraine se joue aussi sur le terrain électoral.
Y compris dans les pays voisins de l'Ukraine, comme la Roumanie, où à la surprise générale, un candidat pro-russe est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Dans les sondages, Calin Georgescu n'était crédité que de quelques pourcents des voix, et pourtant, les résultats quasi complets le donnent premier avec près de 23% des suffrages. Contre un peu moins de 20% pour le candidat pro-européen, l'actuel Premier ministre Marcel Ciolacu. Et l'extrême droite peut aussi compter sur les 13% recueillis par le nationaliste Georges Simion. Une percée aussi inattendue qu'incontestable, comme l'explique Sergio Miscoiu, professeur des universités en sciences politiques en Roumanie.
C'est en fait la première force politique du pays. Si on fait l'addition des voix de ces deux messieurs, ils sont à 30%. Après, le camp social-démocrate est aussi autour de 30%. Et la droite classique, elle aussi, à 30%. Donc non, c'est une percée, c'est une vraie percée. Georgescu essaiera de transformer cet essai, probablement aux législatives, où il s'associera avec une ancienne candidate à la présidence, Diana Chouchouak, qui était la chef d'un parti d'extrême droite qui n'a pas pu se présenter à la présidence, justement, parce que la Cour constitutionnelle a interdit sa candidature. Probablement, Georgescu se rapproche de ce parti et ils formeront un pôle important de la vie politique, donc avec une extrême droite qui sera assez importante dans le futur Parlement. La pression sur le gouvernement futur, quelle que soit sa configuration, sera énorme.
Propos recueillis par Oriane Verdier. C'est un rendez-vous attendu par la société civile aussi bien que les victimes. À partir d'aujourd'hui, Siem Reap au Cambodge abrite la 5e conférence de révision du traité d'Ottawa, celui qui, depuis 1997, interdit le stockage, la production et l'utilisation de mines antipersonnelles. Malgré ce texte, le nombre de victimes civiles a encore augmenté l'an dernier de plus de 20%. Les pays asiatiques sont particulièrement touchés, le Cambodge, l'Afghanistan, le Pakistan, mais aussi la Birmanie qui enregistre le plus grand nombre de victimes. Eliott de Faramont est chargé de plaidoyer chez Handicap International.
Dans le contexte du Myanmar, où on a une utilisation accrue de mines antipersonnelles par les forces armées, mais également par des groupes armés non étatiques. Alors sur l'ensemble de ces pays asiatiques, les mines, une fois qu'elles sont posées, peuvent faire des victimes sur des décennies. Elles sont activables encore très longtemps, elles contaminent les sols durablement. On voit en Afghanistan qu'il y a une chute des combats et de la violence armée en tant que telle. Par contre, la très forte contamination des sols entraîne un nombre de victimes assez important, 651 répertoriées sur 2023. Ce nombre peut être également sous-estimé, mais il montre les ravages durables et Handicap International, nous intervenons sur le terrain, notamment en Afghanistan, pour apporter un soutien et une assistance aux victimes, notamment via des projets de réhabilitation sur le long terme.
Propos recueillis par Yelena Tomic.
Dans les objets du quotidien, dans nos vêtements, dans la nature et jusque dans notre nourriture, le plastique est partout.
Un unique chiffre pour prendre la mesure du phénomène, Julien, on vend 1 million de bouteilles en plastique, pas par jour, mais par minute, c'est trop. Et c'est pour cela que les représentants de 176 pays se réunissent aujourd'hui à Busan, en Corée du Sud, pour un 5e et dernier tour de négociation. Objectif, parvenir à un traité mondial sur le plastique, en produire moins certes, mais aussi le recycler plus, car à ce stade, seuls 9% des déchets plastiques sont réutilisés. Et dans de nombreux pays, eh bien, c'est grâce aux ramasseurs de déchets, ces hommes et ces femmes qui, dans l'ombre, collectent les déchets plastiques dans les décharges. Il serait 20 millions dans le monde, selon l'ONU. Et au Kenya, 8000 d'entre eux travaillent dans la décharge de Dandora, dans la banlieue de Nairobi, où s'est rendu Gaël Lalex.
La décharge de Dandora s'étend sur 20 hectares. On y jette tout, nourriture, verre, métal, plastique ou produits chimiques. Et pour faire de la place, on brûle. Darakasa Atieno vient y chercher du plastique tous les jours.
J'arrive parfois à gagner 200 shillings, 1,50€. Ça m'aide à la maison. Je suis souvent malade, mais c'est normal ici. Quand il brûle les déchets et qu'il y a beaucoup de fumée, j'ai mal à la poitrine, de la fièvre et des maux de tête.
À Dandora, la décharge est parfois le seul horizon. Joyce Wangari collecte depuis qu'elle a 8 ans. Elle a commencé quand sa mère, ramasseuse avant elle, est tombée malade.
Ses poumons avaient lâché, même sa gorge, elle ne pouvait plus parler.
Et malgré les risques pour la santé, vous continuez à faire ça ?
Je n'ai pas pu finir l'école, je ne vois pas où je peux aller, je ramasserai des déchets pour toujours.
Selon les Nations Unies, 60% du recyclage dans le monde se fait grâce aux ramasseurs de déchets. Pour que leur rôle soit reconnu, l'Association des déchets recyclables de Nairobi a été fondée il y a 5 ans. Solomon Njoroge, son président.
Quand on parle de transition écologique juste, on doit prendre en compte les ramasseurs. On veut qu'ils soient reconnus comme des acteurs clés du recyclage, qu'ils soient intégrés dans les décisions politiques, qu'ils aient l'opportunité de parler.
Selon l'ONU, moins de 10% des déchets plastiques dans le monde sont recyclés. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
RFI 7h09, à Paris, la France où les agriculteurs se mobilisent pour la 2e semaine de suite.
Avec dans le viseur des protestataires le possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Mais les agriculteurs réclament aussi la mise en œuvre des promesses obtenues à l'issue d'un premier mouvement en début d'année. Sauf que contrairement à ce qu'on observait en janvier, cette fois, le mouvement s'est lancé en ordre dispersé. Pourtant, tous les principaux syndicats en font partie, la FNSEA, la Confédération paysanne, les jeunes agriculteurs, mais cette fois, Nathanaël Vitran, chacun se bat pour sa paroisse.
Un même combat que chacun semble pourtant mener dans son coin. Et pour cause, en janvier prochain, les exploitants seront appelés à renouveler les chambres d'agriculture et donc à choisir leurs représentants pour les 6 ans à venir. En 2019, la FNSEA, ultra majoritaire depuis toujours, s'était alliée aux jeunes agriculteurs. Ensemble, ils avaient récolté 55% des suffrages. Mais les choses pourraient changer en 2025. La coordination rurale espère capitaliser sur une mobilisation musclée et des actions coup de poing qui ont marqué les esprits. Le syndicat défend une agriculture plus traditionnelle, moins productiviste que la FNSEA et plusieurs de ses cadres ces dernières années se sont rapprochés de l'extrême droite. En 2019, elle était arrivée au coude à coude avec la Confédération paysanne, un syndicat classé à gauche, parfaitement aligné avec les revendications des agriculteurs contre le Mercosur, moins audible quand elle défend la nécessité d'une agriculture plus durable dans une France agricole encore très marquée par le productivisme.
Nathanaël Vitran.
Et puis on termine comme souvent en musique et oh joie, le dernier album en date de Michael Kiwanuka.
Quelle chance, ouais, 4e album de l'artiste britannique aux racines ougandaises, ça s'appelle Small Changes. 5 ans après l'opus précédent, il fait cette fois la part belle aux influences venues du continent africain. Les présentations avec José Marinho.
À 37 ans, la voix d'or de Michael Kiwanuka porte au plus haut l'étendard de ses racines ougandaises et atteint des sommets sur ce disque. People keep talking about how pots don't melt. Ses parents ougandais ont fui le dictateur Idi Amin Dada. Exilé à Londres, il y bâtit sa carrière empreinte d'identité africaine. Son nouvel album est traversé d'influences rock des années 70 venues de Zambie et du Nigeria. Comme il le rappelait dans ses disques précédents, Michael Kiwanuka n'oublie jamais qu'il est un homme noir dans un monde de blanc et incite au rassemblement notamment sur cette chanson. En une dizaine d'années, l'Ougandais Michael Kiwanuka, chanteur mais aussi guitariste et compositeur, s'est imposé comme une figure majeure de la soul du 21e siècle.
Michael Kiwanuka, notre choix musical sur RFI, ça amène un peu de douceur, un peu de joie aussi en ce début de journée. Et on retrouve José Marinho pour en parler, ce sera un peu avant 8h, temps universel.
Ça donne l'iné de la tête dans ce studio. Merci Léa Boutin-Rivière, 7h13 à Paris, tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, du football pour commencer. Et en Espagne, Kylian Mbappé qui retrouve le chemin du but.
Après 4 matchs sans marquer, l'attaquant français a ouvert le score face à Leganés. De quoi mettre le Real Madrid sur le chemin d'un succès tranquille. 3-0 lors de la 14e journée de Liga. L'attaquant français qui assure se sentir de mieux en mieux au Real.
Je crois que j'ai fait un bon match. Je commence de plus en plus à trouver mes coéquipiers. J'ai joué dans une position différente des dernières rencontres. Mais je peux jouer partout en attaque, peu importe si c'est à droite, à gauche, au centre. Je suis prêt à aider l'équipe et à donner mon maximum. Ce que je veux, c'est bien jouer et marquer beaucoup de buts. Et c'est vrai aussi que ça m'a fait du bien de rester à Madrid, d'être avec les jeunes de la réserve aussi, que je ne connaissais pas et qui ont beaucoup de qualités. Ça m'a été bénéfique de m'entraîner comme ça. Et je l'ai senti sur ce match, j'étais très bien physiquement.
Et au classement, le Real revient à 4 points du Barça, tenu en échec samedi. Les Madrilènes qui comptent par ailleurs un match en retard à disputer contre Valence.
En France, 12e journée de Ligue 1 et pas d'effet Sampaoli à Rennes.
L'Argentin dirigeait son premier match sur le banc du Stade Rennais et le club breton s'est incliné 1-0 à Lille. 7e défaite rennaise en 12 journées, le pire départ du club en championnat depuis 22 ans. Avec cette 15e place au classement, le gardien de but Steve Mandanda est certes déçu, mais il ne baisse pas les bras.
On est dans une situation très compliquée. On sait que Tout ne va pas s'améliorer comme ça du jour au lendemain. D'autant plus qu'on a eu les internationaux qui étaient partis et qui sont rentrés au plus tard jeudi ou vendredi. Donc le coach a beaucoup travaillé. Il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux, notamment dans l'organisation. On a été un peu plus solide. On a concédé très peu d'occases. Maintenant, on sait qu'on doit s'améliorer dans pas mal de domaines. On n'a pas le choix que de s'accrocher, de continuer à travailler. Voilà, on ne peut pas se satisfaire de ce résultat parce que c'est un club qui mérite d'être au-dessus et pas où on se trouve actuellement.
Steve Mandanda chez nos confrères de DAZN. Une Ligue 1 toujours dominée par Paris devant Monaco, Marseille et Lille 4e, juste devant Nice 5e qui s'est imposé 2-1 sur Strasbourg. Après son succès 1-0 sur Angers, Auxerre est 7e tandis que Le Havre, vainqueur de Nantes 2-0, est 14e.
En rugby, Antoine Dupont change de catégorie mais reste le meilleur joueur du monde.
Le Français qui a consacré sa saison au rugby à 7 avec en point d'orgue le titre de champion olympique. Et il a bien fait puisqu'il a été couronné meilleur joueur du monde de rugby à 7 par World Rugby, 3 ans après avoir remporté ce titre en rugby à 15, un exploit inédit. Le meilleur joueur à 15 cette année, c'est le Sud-Africain Peter Steph Dutoit.
Et puis en tennis, le meilleur, c'est Sinner.
L'Italien, déjà numéro 1 mondial, vient d'ajouter une ligne à son CV, celle qui indique double vainqueur de la Coupe Davis. Comme l'an passé, l'Italie remporte la compétition par équipe, cette fois en battant les Pays-Bas après les succès de Matteo Berrettini sur Bottic Van de Zandschulp et de Yannick Sinner sur Talon Grigsport.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure. Et bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui l'économie est à la une. Ce matin, l'industrie européenne en panne. À l'échelle du continent, la production industrielle a baissé de 2% sur un an. Preuve en est, plusieurs groupes font face à de très grandes difficultés économiques.
Et le plus emblématique, c'est Volkswagen, le fleuron allemand de l'automobile. Le groupe va fermer 3 usines outre-Rhin et supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Un plan d'économie sans précédent pour le premier constructeur automobile européen et premier employeur industriel en Allemagne. Le constructeur américain Ford a lui annoncé il y a quelques jours 4000 nouvelles suppressions d'emplois en Europe d'ici fin 2027. La France, elle, n'est pas en reste. Elle fait face à une vague historique de plans sociaux. Michelin, Auchan, ArcelorMittal ou encore le chimiste Vancorex. Bref, sans égrener cette longue liste, tous les secteurs sur le continent sont concernés. Et des exemples, Julien, il y en a des dizaines comme ça.
Et donc, Stéphane, une fois le bilan dressé, comment expliquer ces difficultés?
En fait, ça tient en quelques mots. La concurrence chinoise et américaine. Dans un premier temps, la productivité européenne, elle est basse par rapport à celle de ces deux pays. À cela s'ajoute une demande intérieure très faible. Les patrons de grands groupes dénoncent également une surréglementation européenne qui ne leur permet pas d'être aussi réactifs que leurs homologues étrangers. Et surtout les prix de l'énergie, ils sont 3 à 4 fois plus élevés en Europe qu'en Chine ou aux États-Unis. Le résultat est là, le manque de compétitivité de l'industrie européenne face à ces deux mastodontes.
D'autant que chaque économie protège son système.
Et oui, et de manière très agressive avec des subventions industrielles massives accordées et par les États-Unis et par la Chine à leurs entreprises. Ce qui représente une menace croissante pour l'économie de l'UE. À l'été 2022, les Américains ont dopé leur économie avec l'Inflation Reduction Act, un plan de réforme d'un montant de 369 milliards de dollars sur 10 ans pour notamment financer la transition verte et faire baisser l'inflation. La Chine, elle, subventionne ses entreprises, des aides massives pour les secteurs de l'acier, de l'aluminium, de panneaux photovoltaïques, de puces ou encore de l'automobile. La production est telle que les entrepôts chinois débordent, dépassant de 3 fois les besoins du pays, ce qui a une conséquence très concrète. Les entreprises chinoises peuvent se permettre d'exporter à prix ultra compétitif et donc inonder le marché mondial.
Et donc Stéphane, face à ces ogres, comment l'Europe et son industrie peuvent-elles faire face
à... En tout cas Julien, ça va être difficile. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Dans un rapport publié à la rentrée, eh bien, il est clair, pour éviter le décrochage des industries européennes et une lente agonie, ce sont ses mots, il faut investir. Alors plusieurs pistes, puisqu'au printemps la Commission européenne a présenté son plan d'attaque, le Net Zero Industry Act, règlement pour une industrie qui prend le tournant de la transition énergétique, ou encore le Chips Act, consacré lui aux puces et aux semi-conducteurs pour les technologies du continent, afin de ne plus être dépendant de la Chine en la matière. Puisqu'en toile de fond, Julien, de cette panne de l'industrie européenne, l'enjeu réel, c'est bel et bien la souveraineté du continent.
Aujourd'hui l'économie, Stéphane Genest, merci beaucoup. 7h19 à Paris et Kinshasa en ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Votre invité ce matin, Arnaud Pontus, et la militante congolaise Tatiana Mukanire.
Bonjour Tatiana Mukanire. Bonjour, monsieur Arnaud.
Merci d'être avec nous sur RFI en ce 25 novembre. Avec vous, on va porter notre regard sur la situation en République démocratique du Congo. En 2023, plus de 25 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles en RDC, d'après Médecins Sans Frontières. Et pour les 5 premiers mois de 2024, on a dépassé les 17 000 victimes, rien qu'au Nord Kivu. C'est donc de pire en pire. Est-ce que vous constatez cette aggravation sur votre terrain ?
Oui, en fait, depuis déjà 30 ans, nous savons déjà qu'il y a toutes ces atrocités dont moi-même j'ai été victime. Ça veut dire que la situation s'aggrave du jour au lendemain avec tout ce qu'il y a comme insurrection, rébellion, avec le M23. La situation se dégrade. Et pour les femmes, elles sont de plus en plus exposées parce que avec la guerre, en fait, ils utilisent la femme, ils continuent à utiliser les corps de femmes comme armes de guerre.
Oui, le viol est devenu véritablement une arme de guerre.
Oui, effectivement. Le viol est utilisé comme arme de guerre en RDC parce que, à un moment donné, avec tout ce qu'il y a comme résilience, tout ce que le Congolais a créé comme résilience vis-à-vis de ces atrocités, on essaie de les détruire et détruire son tissu social en utilisant le viol comme arme de guerre.
Ça veut dire que les violeurs, les bourreaux, cherchent à détruire les femmes et plus que ça même.
En fait, la femme est la personne la plus importante dans une communauté, surtout la communauté africaine. Et en détruisant cette femme, on sait déjà qu'on détruit toute une communauté. Ce qui veut dire que les bourreaux, ils utilisent ce corps de femme pour humilier toute une communauté. Quand tu es violé en public, quand on arrive à te violer et à introduire de l'acide ou des armes, des objets tranchants dans ton appareil génital, on n'essaie pas seulement de détruire le corps, mais on détruit aussi l'âme.
Depuis 2017, vous agissez au sein du mouvement des survivantes de violences sexuelles. Comment vous venez en aide à toutes ces femmes ?
Nous avons créé le mouvement des survivantes de violences sexuelles en RDC parce qu'il était temps de passer de l'état de victime à actrice des changements, contribuer aussi à la lutte contre les violences sexuelles. C'est comme ça que nous avons réuni les survivantes qui avant été des victimes, pour que nous puissions aller sur le terrain, palper de notre doigt, amener les victimes. Vous comprendrez que c'est facile pour une victime de parler à quelqu'un qui a lui-même vécu ça dans sa chair. Et c'est à ce moment-là que nous avons organisé cela pour aider les victimes qui n'ont pas pu avoir le courage de parler, qui n'ont pas le courage de briser le silence.
Oui, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes, les victimes, les survivantes parlent plus aujourd'hui qu'avant ?
Oui, bien sûr que les survivantes parlent plus aujourd'hui parce qu'à un moment donné, nous qui avions parlé au début et qui devenons des exemples pour d'autres, nous arrivons à voir que les victimes continuent de parler et ils s'engagent. C'est pas seulement parler, elles s'engagent dans cette lutte. Et là, on voit la résilience de la femme, on voit ce courage de cette femme qui, dans le temps, était enfermée dans son silence, qui se détruisait de l'intérieur, mais qui accepte d'affronter sa peur, qui accepte d'affronter son humiliation et devenir actrice de changement. Et pour moi, ça donne de l'espoir, ça donne de la force à toute une communauté.
Oui, vous avez parlé de honte, d'humiliation pour les femmes, pour leur famille, pour leur communauté. De quoi ont besoin principalement et d'abord les femmes qui ont été victimes, Tatiana Mukanire ?
Les femmes qui ont été victimes, tout d'abord, elles ont besoin d'être écoutées. C'est important d'être écoutée parce que on essaie de ressortir cette colère, cette douleur, tout ce qu'on a pu garder à l'intérieur. On essaie de les sortir. Mais on n'a pas besoin seulement d'être écoutée, mais on a besoin d'une prise en charge holistique, comme l'a fait le docteur Mukwege, avec la prise en charge holistique dans l'hôpital de Panzi.
La prise en charge holistique, c'est la prise en charge totale. Hein. On soigne le corps et l'esprit.
Oui, bien sûr, c'est ça. On te prend en charge sur le plan médical, psychologique, juridique et pour une bonne réinsertion socio-économique. Cependant, les personnes, les victimes, ils ont besoin d'être impliqués. C'est que nous, en tant que réseau de victimes, nous appelons la co-création. Quand on essaie de ramener les victimes à les soutenir, il faut aussi les impliquer dans tout, à tout le niveau. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la victime soit consultée en amont pour tel ou tel projet, mais il faut assez qu'on la fasse participer pour qu'elle se sente reconnue à un moment donné, qu'elle se sente intégrée totalement dans la communauté.
Mais Tatiana Moukaniré, l'histoire de ces milliers de femmes, c'est aussi votre histoire, vous le disiez, hein, vous avez vous-même été violée il y a 20 ans, en 2004, c'était durant l'insurrection de Bukavu. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être relevée?
Est-ce qu'on se relève après avoir été humilié? Est-ce qu'on se relève après avoir vécu le pire dans sa vie? Je ne dirais pas que je me suis relevée totalement. Cependant, je me bats tout le jour avec le démon de ma vie. Je me bats tout le jour avec le traumatisme qui a été le mien. Cependant, je suis un exemple pour toutes les femmes qui ont vécu ces atrocités et qui voudraient se relever. Et à un moment, je me dis, c'était important d'en parler. C'était important de briser ces silences. Et pour moi, je me dirais que je suis survivante aujourd'hui. Je suis un modèle. Je suis une victorieuse parce que à un moment donné, je me suis relevée et je sais de relever les autres.
Aujourd'hui, vous parcourez le monde pour porter la voix des femmes survivantes de violences sexuelles. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendue?
En fait, je pense que à un moment donné, on s'est dit qu'on est entendu à un niveau et à l'autre niveau, non, parce que il y a de ces personnes qui écoutent, mais qui ne réagissent pas. Et c'est ça le cas avec la communauté internationale. Parce que, personnellement, je suis passée à l'OTAN, je suis passée aux Nations Unies, à beaucoup de forums, de conférences internationaux. Et malheureusement, après tout ce qu'on a pu dire, on se rend compte que rien n'est fait, au fait. Personne n'essaie de nous soutenir, de tenir notre main. Pourtant, nous sommes humains comme toute autre personne et nos vies comptent autant que les vies des autres personnes.
Tatiana Moukaniré, on a débuté cet entretien avec les chiffres effarants des violences sexuelles dans votre pays. Est-ce qu'il vous arrive d'être découragée?
Il m'arrive chaque jour de me lever et de me dire pourquoi je me bats. Cela arrive deux fois. Et je me dis, pourquoi je fais ça? Est-ce que je vais y arriver? Mais quelque part, il y a de l'espoir. Quand on voit que le gouvernement congolais crée un fonds national pour la réparation de victimes, le FONAREV, on s'est dit, il y a de l'espoir. Mais il y a beaucoup à faire pour qu'on arrive à des résultats palpables. Il n'y aura pas de paix sans justice. Parce que, à un moment donné, oui, on veut la paix. Mais tous ces bourreaux qui sont en train d'errer partout, qui sont dans des pays qui ne sont pas encore jugés, ça nourrit, ça donne la force à cette impunité qui pourrait être cassée en amenant toutes ces personnes devant la justice.
Donc l'espoir passe par la justice?
Bien sûr que l'espoir passe par la justice, parce que par la justice, nous aurons la paix.
Merci à vous, Tatiana Moukaniré, pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RFI.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Tatiana Moukaniré, militante congolaise contre les violences sexuelles faites aux femmes, coordinatrice du mouvement national des survivantes, invitée RFI Matin d'Arnaud Pontus. Un entretien que vous retrouvez bien sûr sur notre site RFI.fr et notre application Pure Radio. Bientôt 6h30 en temps universel et l'info qui continue dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
Santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous parlons du viol conjugal.
Demain,
vos questions sur le paludisme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. RFI, la sélection du mois.
J'ai tellement, yeah,
le juice.
Tellement prié, tellement pensé ce moment. Pentau, champagne pour le gang, rouge pour échaler à tout moment.
Whisky, yeah, et Brent Feillaz. When you want, that's the month. Pop that body for me, that's my kind of
healing. Sexual, give me every day about the girl I need, I love it. RFI musique.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
parler et agir ensemble. Quelle solidarité entre les femmes victimes de violences.
Demain,
recherche d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé, nos spécialistes vous conseillent.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10.